l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans les studios de FM+, qui nous accueillent chaque semaine. Et donc, pour les échos de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, je vais vous entraîner. On va faire un road trip à travers l'Afrique avec mon invité, donc, que je présente rapidement, mais il se présentera mieux après, ensuite. C'est Noël Germain, donc, que j'ai connu à l'occasion d'une petite conférence à la MTMSI, justement, et qui présentait son livre qui s'appelle L'Afrique comme j'aime, et où il nous raconte un incroyable périple au travers de l'Afrique. Alors, bonjour Noël.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Ça va,
merci.
D'accord. Donc, on est heureux de vous accueillir ici. Et donc, c'est d'ailleurs super que vous ayez fait ce livre, parce que je précise d'ailleurs, on en parlera à la fin, vous présenterez à la fin, et surtout, vous direz comment on peut l'acheter. Non seulement, il y a votre récit qui est par moments assez croustillant, mais ensuite, il y a aussi des très jolies photos des différents coins d'Afrique où vous êtes allés. Alors, j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu comment Monsieur Noël Gervais, visiblement français et du Sud, non, je crois.
Oui, je suis
voilà.
Montpellier. Ouais.
Comment, alors, qui vous êtes, d'où vous venez, etc., etc. Je vous laisse la parole.
Donc je suis montpelliérain. J'habite dans un petit village, là, maintenant, au nord de Montpellier. Et j'avais toujours eu le rêve de... Dès que je pouvais à la retraite ou en pré-retraite, enfin, si l'opportunité se présentait, de descendre, traverser toute l'Afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Voilà. Parce que je suis à la fois un peu explorateur, un peu curieux, et en plus, je suis amoureux de l'Afrique depuis longtemps. Mm-hmm. Voilà. Donc.
D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir justement, parce que là, vous nous entraînez déjà à l'Afrique, on voit bien quelle est votre passion, hein, mais j'aimerais bien savoir un peu qui vous étiez avant, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui vous a permis peut-être de mûrir ce projet aussi que vous aviez sûrement depuis longtemps. Vous étiez quoi, vous avez vécu comment, vous êtes père de famille, enfin bref, tous les détails dont on est croustillant ici pour pouvoir vraiment bien situer la personne qu'on a au bout de l'antenne.
D'accord. Donc moi, j'étais expert technique dans les télécommunications. Donc j'avais déjà eu des occasions pour partir un peu à l'étranger et notamment en Afrique. Et j'avais déjà aimé. Mais en fait, le véritable coup de foudre, on va dire, c'est à 14 ans, un ami à mon père qui travaillait au Maroc, qui est un Français, qui m'a amené dans le désert et j'ai eu le coup de foudre, quoi. En plus, j'aimais beaucoup la moto, donc moto plus l'Afrique, voilà, c'était un peu le rêve de faire des périples en Afrique. J'en ai fait plusieurs, d'abord l'Afrique de l'Ouest, j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en moto, à pied, je me suis perdu d'ailleurs, mais j'en veux pas au désert, la preuve c'est que j'y suis retourné. et puis j'ai eu l'opportunité de partir juste après mon divorce, voilà, quand j'ai divorcé... J'avais à peu près 35 ans, j'ai commencé à faire un gros périple de 4 mois, où les gens ont été vraiment très chaleureux avec moi. Moi, c'était pas facile, c'était en 92, donc il y avait beaucoup de soucis entre les problèmes de Touareg qui se rebellaient dans le Niger, tout ça. Et puis, il y avait même une petite guerre entre le Sénégal et la Mauritanie. Juste au moment où j'étais là-bas.
Ah
donc,
oui,
c'est pas eu de chance parce que ça a duré que 6 mois, mais bon.
Carrément.
Voilà.
Carrément. Donc, on voit bien, alors, vous étiez à France Télécom, et c'est vrai qu'on sait, quand on connaît un peu, on sait bien qu'il y a quand même eu pas mal de partenariats avec l'Afrique, puisque actuellement, quand même, l'Afrique n'est pas trop mal équipée, je pense, justement, en moyen de communication.
Voilà.
Moi, ça fait 30 ans que j'y vais, et c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'était pas à ce stade-là. Il fallait attendre 2 ans pour avoir un téléphone fixe à l'époque. Et depuis, ça. Donc, je suppose que France Télécom, entre autres, a été un partenaire important pour ces
oui,
pays.
Oui, voilà, je faisais des petites missions, j'en ai fait. Au Burkina, je m'occupais de transmission à l'époque.
Mmh. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis du coup, il y a eu l'occasion aussi, après le coup de foudre, comme vous dites, qui fait qu'à un moment, bon, non seulement on est dans une pensée, hein, dans une élaboration presque de rêve, et puis là, pour tout à coup, c'est le choc, quoi. Hein, c'est vraiment quand où ça choque. Ouais. D'ailleurs, je dois dire d'expérience aussi, je dis toujours, l'Afrique, où vous y tombez dedans complètement, ou alors souvent, c'est très compliqué. Et il y a des gens même qui ont, j'ai connu des gens qui n'avaient pas pu rester. Il y a une énergie très très forte là-bas, et donc j'ai entendu quand même parler de désert, et c'est vrai que le désert c'est pas rien, hein, et que voilà, quand on va dans le désert on se dépouille. Voilà, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Blanche de Richemont qui a fait des livres là-dessus, parce qu'elle a fait énormément de périples dans le désert, justement dans des conditions aussi assez terribles, assez dures, drastiques, je dirais. Et c'est vrai que du coup vous avez vraiment eu le choc, parce que ce qui marque la première fois quand on survole comme ça, comme mon premier vol pour le Burkina, ce qui m'a frappé énormément, c'est de survoler le désert.
C'est immense. Vrai,
c'est immense, et c'est, ouais. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Et puis moi, j'avais vu vraiment comment l'eau avait disparu. C'est-à-dire, on avait l'impression, parce qu'il y a des dunes, il y a tout ça, il y a des traces. Et on a vraiment l'impression que c'est un moment, l'eau qui s'est complètement évaporée. Et c'est vrai que ça transporte dans des... Donc je comprends que ça vous ait vraiment fasciné.
Puis après un divorce, je dirais que c'est une bonne thérapie aussi.
Voilà, exactement. Après, ça, voilà.
J'ai passé pas mal de choses.
Voilà, c'était une bonne façon pour lui.
Ce qui était important pour moi.
Ouais. C'est une bonne façon. Puis comme vous dites, c'est une forme de thérapie, effectivement, parce que là, c'est pareil, ça passe ou ça casse, ou on s'écroule, ou au contraire, on va rechercher son énergie, on découvre qu'on en a encore beaucoup. Donc c'est vrai que ça vous a poussé, et c'est très très bien. Donc vous aviez fait déjà plusieurs incursions comme ça, avant ce grand périple que vous nous racontez dans votre livre.
Oui, j'ai aussi fait partie d'une petite association franco-sénégalaise qui était... Le président, il y en avait un qui était à Durbel au Sénégal, un Sénégalais, et puis il y avait un Français, c'était deux pédagogues, et ils avaient fait des bandes dessinées éducatives pour les enfants, et moi, j'avais un vieux 4x4 à l'époque, j'étais parti avec ma compagne et mes deux enfants qui étaient petits, hein, et j'ai récupéré 800 bandes dessinées à Dakar, et j'ai fait tout le Sénégal, c'était à la fois... très intéressant parce que j'ai approfondi ma connaissance des pays africains, mais c'était difficile parce que c'était des vacances scolaires, c'était en pleine saison des pluies et c'était pas facile. Bon, mais voilà, on l'a fait.
Ouais, la saison des pluies, c'est pas rien là-bas, hein, ouais. Parce que où c'est tout sec, où c'est vraiment, c'est complètement.
Je pensais mettre une heure pour aller dans un village, je mettais la matinée.
Ah oui, carrément. Surtout que vraiment là-bas, le goudron, comme ils disent, ça, il y en a pas beaucoup, ça existe pas, et ce sont essentiellement des pistes, quoi. Donc, cette âme aventurière, quand même, vous l'aviez, et vous y avez même transporté vos enfants.
Voilà. Ça a été dur pour eux.
Ah oui.
Très dur. Ouais.
Ah oui. Ils vous en veulent pas ?
Non, non, non. Non, mais ça les aura pas donné, on va dire. Bon, ils étaient petits, hein. Ouais. Mais ils ont pas été amoureux comme moi je l'ai été. Et là, justement, je pars cette année avec un de mes fils qui était petit à l'époque. On va aller dans un mois, là, on va aller se promener au Maroc et on va découvrir un peu le désert. Mais depuis, il n'y est jamais retourné. Et il y a déjà 30 ans.
Hein. C'est une façon peut-être de revenir un petit peu, ouais. de revoir un peu les choses peut-être différemment. C'est sûr que pour des enfants, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est quand même des projets d'adultes, ça.
C'est pas oui, c'est ça.
Et ils vous l'ont souvent reproché ou pas trop ou...
Non, ils me l'ont jamais reproché, non, mais ils m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas prêts à partir tout de suite avec moi.
Que ce n'était pas leur truc.
voilà.
Papa, vas-y, on t'attend, on est là.
ouais.
D'accord, donc...
ce qui les choquait le plus, c'était parce que, évidemment, comme c'était l'été... Il y avait très peu de touristes. Et donc, du coup, aux frontières, ça se passait pas bien. Vous connaissez l'Africain,
oui,
on voulait. Voilà.
Il fallait donner.
Oui, il fallait.
Voilà. Bachis.
Ils ne comprenaient pas parce qu'ils disaient on va les aider. Et puis, à la frontière, ils nous ont piqué les ordinateurs. Enfin, bon, je m'étais engueulé avec un douanier. Enfin, c'était compliqué, quoi.
Donc, oui, c'est
enfants,
sûr que
pour... à cet âge-là, ils comprennent pas, quoi.
Quand on essaye de leur donner vraiment une éducation stricte, régulière, etc., c'est certain que vraiment, c'est difficilement compréhensible ou acceptable, en tout cas. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, donc, vous avancez un petit peu dans ces expériences-là, et puis, d'un coup, après votre divorce, donc, vous décidez de partir. C'est comme ça que ça s'est décidé après.
Ça, c'était mon premier voyage en Afrique de l'Ouest, mais donc il y a déjà des années. Mais le voyage qui fait l'objet du livre, c'est quelque chose que j'ai mûri pendant des années. Et puis, quand j'ai pu prendre une pré-retraite, j'avais la forme physique en plus. Et je me suis dit, ça a un sens que je fasse ça parce que. En plus, j'ai vraiment le profil, quoi. Quand je faisais en moto déjà dans le désert avec des copains et tout, ils étaient épatés parce que j'avais un super sens de l'orientation, une énergie. Voilà, c'était toujours moi qui allais chercher les traces, parce qu'ils étaient. Ils étaient cuits, quoi. Ils n'arrivaient pas à se lever le matin. Enfin, voilà. Moi, j'avais l'enthousiasme. Et je me suis dit, j'ai la chance d'avoir ce profil-là. Peut-être que ça, il y a un sens que je fasse quelque chose, quoi. Voilà.
Donc ça a commencé.
Un peu
comme
pour le livre aussi.
Ouais, comme pour le livre.
Le livre, j'avais pas l'idée d'écrire un livre. Hein. Et puis c'est venu pendant le voyage, quoi. Je me suis dit, tiens, si je pouvais faire un livre qui plaise, j'aiderais une ONG, voilà. Parce que j'ai connu pendant le voyage.
D'accord, vous avez connu, mais vous avez dû en rencontrer des gens. Hein. Parce que quand on voyage comme ça, c'est sûr que la rencontre, même dans le désert, il y a des gens qui vous disent, on est arrivé quelque part, il n'y avait personne, et tout à coup, on avait plein de gens autour de nous. Ouais. Dans le Sahara,
il y a toujours du monde.
Oui, il y a toujours du monde. Donc, vous avez osé le faire et vous avez acheté une moto à cet effet ?
Oui, j'avais déjà j'ai toujours eu des motos, moi.
Vous avez toujours eu des motos, vous êtes un motard.
Oui, je suis un motard.
Confirmé, d'accord.
Et puis, j'avais une vieille bécane que je savais qui était bien pour faire ce genre de... Alors, j'avais d'abord fait un petit peu le Maroc pour voir comment ça se passait. Ça s'était bien passé, et voilà. Et je suis parti avec une vieille moto, hein, un truc. Elle avait 92 000 km quand je suis parti.
Une vieille guimbarde, quoi.
Et j'en ai fait 26 000 là-bas.
Ah ouais, c'est sûr que... Ouais.
Mais c'est... D'ailleurs, dans le livre, je dis toujours merci, monsieur Honda, que c'est quelqu'un que je porte. Enfin, lui, et puis... Parce que franchement, les Japonais, ils nous ont fait des machines incroyables. Quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est sûr que vous avez particulièrement expérimenté et puis apprécié. Et donc, vous étiez parti... Avec des amis, vous êtes parti avec des copains. Vous dites que les gens, il y en avait qui n'avaient pas de courage ou qui ne pouvaient pas se lever.
C'était à l'époque quand je faisais un petit peu le Maroc tous les ans.
Pas des périples aussi longs. Voilà.
Mais un long périple comme ça, j'avais envie de le faire tout seul.
Voilà, d'accord.
Ouais. J'avais envie. Puis en plus, c'est vrai que ça aurait été compliqué parce que les gens de mon âge, ils sont pas forcément à la retraite. Ils ont pas forcément l'énergie pour le faire. Et puis les jeunes, ils ont souvent pas l'argent ou voilà. Et donc, et puis ça m'allait bien de faire un truc tout seul. Je me suis jamais ennuyé dans mes voyages. Autant en ville, je me plais pas tout seul, mais dans les voyages.
Quand on aime le voyage, il est certain qu'en fait, même si on est seul, on n'est jamais seul. On est toujours dans la rencontre, on est toujours abordé. Enfin, c'est un peu comme dans le désert. Alors, c'est plus surprenant parce qu'il n'y a rien. Mais dans les voyages, c'est vrai que on est dépanné. Enfin, je pense que
ils sont très solidaires.
Hein. Voilà, les gens sont solidaires.
Et en plus de ça, la moto pour un Africain, je pense, ça représente quelque part un peu le courage, quelque chose qui a une valeur chez eux beaucoup plus importante qu'ici en Europe, je pense. Et le fait d'être en moto, j'ai jamais été, on m'a jamais demandé du bakchich, des trucs. Aux frontières, ça se passait très bien.
Mais c'est sûr que c'est pas comme si vous arriviez.
Vous n'êtes pas vu comme quelqu'un qui a de l'argent.
Avec un bagage prestigieux, avec une grosse voiture, etc., etc. C'est sûr que là, c'est vrai que la moto, c'est sûr que pour eux, ça représente beaucoup, puisque il y a encore pas tant de gens que ça qui peuvent s'acheter des voitures.
Je rencontre très peu de motos.
Voilà, des voitures. Mais en même temps, quand on peut s'acheter une moto, c'est vraiment quelque chose, quoi. On sort vraiment, on arrive à sortir un peu du lot et tout ça, quoi. Et même les femmes, alors les femmes, c'était surtout à l'époque les mobilettes, voilà. Mais c'était pour une femme, c'était vraiment un privilège aussi de pouvoir se déplacer avec un moteur, etc.
Oui, c'est formidable.
Voilà, c'est formidable.
Je suis un fanat de tous les deux.
Et donc, c'est vrai que les conditions dans lesquelles on travaille, c'est quand même extraordinaire parce qu'on se rend compte que si on est au niveau des gens, ben, les gens, ils vous accueillent, ils viennent vous contacter, ils ont du respect pour vous. Voilà, ils vous demandent pas de l'argent impunément, etc. Parce que c'est pas pour rien qu'on demande de l'argent, souvent. C'est parce qu'on a l'impression que l'autre, il est très riche et donc on se gêne pas, quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc, il y a un livre, alors, un livre qui est pour moi un livre de référence, qui s'appelle « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Et Nicolas Bouvier, dans les années 50, avec son pote, bon, lui, il était déjà journaliste écrivain, et son meilleur ami était portraitiste, enfin, il était peintre. Ils sont partis avec une vieille guimbarde, alors eux, c'était une vieille voiture, mais ils sont allés jusqu'à Katmandou.
Ouais.
Ils ont traversé la Perse, enfin l'Iran, la Turquie, l'Iran, etc. Et dans les conditions dans lesquelles ils voyageaient avec cette vieille guimbarde, c'est pareil. Hein, bon, à part qu'ils ont été coincés par les neiges dans les frontières, là, dans les montagnes iraniennes au départ. Enfin, mais sinon, souvent, voilà, il y avait des rencontres. Il le décrit très bien aussi. Et je pense qu'effectivement, la moto, bon là, c'était peut-être plus compliqué pour partir à moto, encore que. Mais c'est sûr que la moto, ça donne à la fois, on est dans un déplacement, on a une machine, et en même temps, on est accessible pour tout le monde, quoi. On n'est pas enfermé dans un habitacle, quoi. Donc, vous avez...
C'est ce qui impressionnait les Africains, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs.
Ils disaient, mais tu dors où, là?
Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'ils ne comprennent pas qu'un blanc puisse vivre comme ça, quoi. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Donc, comme on va continuer, parce qu'il y a beaucoup encore de choses à dire, je vous propose qu'on passe la pause musicale sur le morceau que vous avez choisi.
D'accord.
Qui est un morceau de...
Alors, c'est une gambienne. Elle chante très, très bien et elle joue de la kora.
Mmh. Ah, la kora en plus.
Voilà. C'est Sona. Mmh, alors, son nom, je préfère dire Sona parce qu'elle a un nom compliqué.
Ouais, je vois qui c'est.
Ah, Jo Barthé,
je la connais. C'est magnifique ce qu'elle fait. Ouais. Magnifique. À tout à l'heure. Thank you. Et nous voici de retour dans les studios très accueillants de FM+. Et je suis toujours en compagnie de Noël Gervais, qui nous a fait, qui nous fait le plaisir de nous faire balader en Afrique pour le long périple qu'il a fait il y a quand même quelque temps et pour lequel il a laissé un témoignage avec un livre et des photos. Et nous sommes toujours en compagnie de Yann à la technique. Voilà, et qui fait son travail avec beaucoup de patience par rapport aux animateurs. Voilà, bon, donc Noël, on reprend un petit peu notre conversation et notre périple. Est-ce que vous pourriez nous indiquer, parce que votre périple, il a quand même été, il a duré combien de temps ?
Une année sur le terrain,
c'est quand même pas mal. Voilà, sur une moto que vous bénissez encore parce qu'elle vous a, même si elle n'était pas toujours au top.
Elle n'est plus là, elle est en Afrique.
Hein. Oui, elle était en Afrique, oui, justement. Mais donc, vous avez toujours une pensée affectueuse pour elle. Et puis, voilà, sur le titre, on voit que vous avez fait 23 000 kilomètres. Est-ce que vous pourriez nous citer, grosso modo, enfin, quelques pays que vous avez traversés, comme ça vous vient un petit peu ?
La liste est longue, mais Maroc, bon, mais évidemment, Maroc... Mauritanie, Sénégal, Guinée. J'ai adoré la Guinée parce que j'ai trouvé l'Afrique profonde. Parce que le Fouta Djallon, quand j'étais, je n'ai pas commencé aujourd'hui, mais pas d'électricité, pas de route, très difficile pour accéder dans les villages. C'était une épreuve physique, moi j'aime, hein, donc ça me convenait. Mais en plus, les gens, tellement chaleureux, quoi. Ils avaient même pas l'électricité, donc... on a le sentiment que plus les gens sont pauvres et puis ils sont chaleureux.
Ah ben, ce qui est vrai, c'est dingue, moi je trouve en voyageant, c'est ce dont on se rend compte. Alors là, le Fouta Djallon, il faut lire Le Roi de Kael, qui a eu un prix Renaudot, je crois, qui a été écrit par Tierno Monenembo, qui est un Guinéen, donc qui a à un moment, parce qu'il était dans l'opposition, il a dû fuir son pays. Il fait des livres magnifiques et il donne envie, effectivement, quand vous m'en parlez. Voilà, je me retrouve là dans ce Fouta Djallon, dans ses négociations de cet homme complètement visionnaire, mais voilà, qui a fini par laisser la santé et tout, avec les Peuls. Donc avec les Inuits, parce que Tierno Monenembo est Peul, et c'est une Inuit qui était très importante, entre autres, dans ces régions.
D'accord. Voilà. Oui, non, mais en fait, la Guinée, comme il y a beaucoup de pays, en Guinée, je ne connais que le rural. Ouais. Je ne suis même pas allé au bord de la mer, je ne suis pas allé voir la capitale, quoi. Mm-hmm. En fait, la capitale, j'y allais que quand il me fallait avoir un visa. Mm-hmm. Mais sinon, j'évite un peu, parce que moi, ce que j'aime, c'est l'Afrique vraiment traditionnelle et authentique, quoi.
Voilà. Tout à fait, c'est l'authentique, c'est encore dans les campagnes qu'on le retrouve, c'est bien sûr dans la brousse.
Voilà, donc après la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai rencontré l'ONG, là. Et puis, après, on longe la mer, alors je descends de la montagne, je longe la mer, donc Ghana, Togo, Bénin, tout ça, le Togo, Bénin, c'était français à l'époque, hein. Des pays très, très sympas. Très sympa. Et après, le gros morceau, c'était le Nigeria. Alors là, je ne pensais jamais pouvoir traverser le Nigeria. D'ailleurs, tous les gens au Bénin m'avaient dit tu n'auras jamais le visa et tu ne pourras jamais traverser. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et surtout, je crois, de persévérance parce que j'ai fini par engueuler le consul. Le consul, on s'est engueulé et tout. Et puis finalement, il a su que j'avais un fils qui avait le même âge que le sien, qui m'attendait au Cameroun et ça l'a fait flancher et il m'a donné l'autorisation.
Mais le Nigeria, c'est un rude pays.
Et puis c'est un pays. Après, bon, j'étais content d'avoir le visa, mais après, l'angoisse de traverser le pays, quoi.
Ben, vous savez, c'est quand vous en parlez, Burkina Abbé, par exemple, puisque je vais au Burkina depuis très longtemps, ils vous le disent. Ils vous disent que quand ils vont là-bas, que s'ils vont dans un marché ou quoi, une fois m'avait raconté, on leur avait montré un marchand, là, un grand marché, on leur avait montré un marchand, on avait dit celui-là, là, c'est un Burkinabé, si tu as un souci, si tu te perds, et c'était arrivé justement, la personne s'était perdue dans le marché, surtout, surtout, ne demande pas ton chemin à quiconque, parce que tu vas te faire arnaquer, voire après zigouiller, quoi, pour l'argent, etc. Et retourne là-bas. Et c'est comme ça qu'il avait eu la vie sauve, voilà, pour dire que même eux-mêmes, c'est très réputé comme un pays dangereux. Alors, je crois que ça s'est un peu amélioré, mais au niveau sécurité, mais pas tant que ça, quand même.
Le Nigeria s'est un peu amélioré aussi, puisque ouais. Maintenant, ils délivrent des visas, comme moi, ils ne voulaient pas. Mmh. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais obligé d'aller à Lagos, quand même, à la grande capitale. Mmh. Mais après, dès que j'ai pu, je suis arrivé au Cameroun par des petites pistes. Enfin, j'étais même perdu, quasiment, parce que je voulais éviter l'urbanisation. Et même en voulant éviter, je me suis quand même fait braquer sur la route, quoi. Mmh. Heureusement que je les ai vus arriver. Mmh. Et que j'ai réussi à faire demi-tour et qu'ils ne m'ont pas attrapé, qu'il faisait nuit. Puis j'ai eu de la chance là aussi. Hein. Mais par contre, arrivé au Cameroun, ça a été la grande fête. Quoi. Je ne sais pas par où je suis arrivé. Il y avait un petit pont tout rouillé, une petite rivière. Je les ai vus de l'autre côté. Alors, c'était drôle parce que c'était des uniformes français. Quoi.
Vous aviez une boussole ou quoi?
Oui, la carte. Et c'était des uniformes français. Mmh. Alors ça me faisait un petit peu chaud au cœur parce que avec ce que je venais de passer, là, 3-4 jours difficiles, j'ai dit, ah ben là, peut-être que ça sera sécure et tout. Mais en fait, les gens adorables, ils parlent anglais en plus. Mmh.
Ah, oui, il y a des zones où ils parlent anglais. Cameroun, ils parlent anglais. Il y a même des zones où ils parlaient allemand parce qu'il y a eu les Allemands aussi. Voilà, c'est un grand pays.
Je ne savais pas qu'une partie du Cameroun, ils sont anglophones. Et alors le soir, on a fait la fête. Quoi. Mmh. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont invité. Les gendarmes, on a fait la fête dans la gendarmerie. Hein. Les filles sont allées chercher les bières et tout, la musique et tout, toute la nuit. Ah, ça a changé du Nigeria.
Oui, c'est sûr qu'après avoir échappé, parce que là, on ne sait pas ce qui vous arrive après, on peut ne plus jamais vous retrouver. Hein. Au Nigeria, c'était réputé pour ça. Alors, ils ont essayé, ils essayent. Bon, c'est un pays quand même assez riche aussi, mais bon, économiquement, mais bon.
Ouais, le problème, c'est qu'ils ont les islamistes qui descendent faire des razzias, et puis c'est un peu la guerre civile, quoi.
Ouais. Et donc, oui, alors, vous nous avez raconté l'anecdote du visa, là, et c'est vrai qu'en Afrique, bon, on peut dire quand même que, par moment, traverser les frontières, c'est un peu aléatoire, en fait, c'est un peu, non, au coup par coup.
Voilà, mes premiers voyages, on pouvait arriver à la frontière, effectivement, en discutant, en donnant un peu de sous et tout, on arrivait à passer. Et je me suis dit, au Nigeria, je vais essayer de faire ça pour accéder au Nigeria. Mais en fait, j'ai pas pu parce que c'est informatisé maintenant.
Ah, d'accord.
Donc, le gars, il m'a dit, tant qu'on n'aura pas reçu de l'ambassade à Cotonou, enfin, le consulat à Cotonou, au Bénin, le papier, le tampon, on ne pourra pas te le... Et c'est là que je suis revenu complètement dépité. Mmh. Je suis retourné à Cotonou et que je suis allé engueuler le consul. Mmh.
Il ne faisait pas son job.
Et puis qu'il m'a... Non, mais j'avais tort hein, de l'engueuler, mais ça me faisait du bien. Je me suis dit, je suis arrivé jusque-là, c'est dommage de l'arrêter le voyage. Quoi. Et puis, quand on a tout atteint, il m'a...
Oui. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu voilà un peu aléatoire façon comme on dit au Burkina hein, c'est ça dépend sur qui on tombe ça dépend quoi etc.
Après le pays difficile aussi pour moi ça a été la République démocratique du Congo parce que c'est pareil là ils pouvaient même pas délivrer le visa où j'étais et en fait le directeur de l'immigration il m'avait invité à manger il était plutôt sympathique et tout moi j'ai cru qu'il allait me faire le papier puis il me dit ah, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je peux vraiment pas vous faire un visa. J'ai même pas le droit, j'ai pas les papiers, j'ai rien. Alors que moi, je croyais que c'était bon, quoi. Et puis, il me serre la main. Vraiment un truc théâtral, quoi. Il me serre la main comme ça. Il me dit, mais je vais vous donner mon numéro de téléphone portable si vous faites arrêter par la police ou les militaires. Ben, ça vous évitera peut-être d'aller en prison. Vous m'appelez. Là, il m'a vraiment... C'était théâtral, quoi. Il a rigolé avec ça, quoi. S'il a vu ma tête, sûrement.
Oui, il n'y a que dans des pays comme ça qu'on peut voir de telles têtes, quoi. Parce que chez nous, c'est beaucoup plus quand même rigoureux et beaucoup moins rigolo. Parce que c'est vrai que là-bas, on peut arriver quelquefois assez fin, selon les rencontres qu'on fait ou quoi. Il peut y avoir des petits passe-droits comme ça, de sympathie ou quoi. Alors que chez nous, quand même, on n'en est pas là.
Après, les gens étaient bien. Hein. En République démocratique du Congo, c'est moins effrayant pour eux que le régime du... Enfin, moi, j'ai ressenti ça, que le Nigeria.
Ah oui.
Et puis, comme il pleuvait tout le temps, parce que c'est la saison des pluies, c'était difficile. J'ai vu aucun gendarme, j'ai vu aucun militaire et aucun policier. J'ai dormi chez les curés parce que c'est eux qui m'ont accueilli. Et ça s'est bien passé finalement.
Et les curés, en plus, les prêtres, souvent, en Afrique en tout cas, les prêtres et les religieuses, souvent, ils ont une espèce d'ouverture d'esprit, de liberté qu'on ne trouvait pas, en tout cas peut-être maintenant moins, mais qu'on ne trouvait pas trop ici, quoi. Hein, c'est vraiment... Oui. C'était souvent les lieux d'accueil, les lieux de scolarisation. Enfin, ils ont fait quand même aussi des choses sympas. Quoi. Et puis là, on se sent protégé chez les curés.
Voilà. J'étais avec des séminaristes. J'ai pu discuter, c'était ça. Intéressant.
Donc, vous n'avez pas après, je suppose que voilà, les pistes, les endroits où vous circuliez, c'était toujours un peu aussi aléatoire, non?
Ah oui, mais en République du Congo, j'ai dû mettre 3 jours pour faire 120 kilomètres.
Ah ouais.
Et du matin au soir, tellement je tombais, il y avait de la boue partout, c'était difficile, quoi. Et puis, j'ai aidé aussi les gens qui étaient un peu... Les quelques voitures que j'ai vues, ils étaient enlisées, donc je les ai aidées. Donc j'ai perdu pas mal de temps, mais bon, ça fait partie de la solidarité. Ils sont très solidaires, donc il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas moi aussi. Et puis après la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus facile parce qu'on arrive en Angola, c'est l'Afrique australe. Et administrativement, c'est beaucoup plus facile. Y a même, quand on arrive en Namibie, Botswana, tous ces pays... Il n'y a même pas besoin de visa, quoi.
Ah oui, carrément.
C'est une autre Afrique, quoi. L'océan est froid, puisque les courants sont froids. Et c'est pas la même Afrique, mais il reste quand même la solidarité, par exemple, le fait qu'ils soient chaleureux, tout ça.
Tous les pays comme ça.
Franchement.
Oui.
Et l'Angola, j'ai adoré l'Angola parce que je pense que c'est un pays d'avenir. J'ai ressenti ça entre les Noirs et les Blancs, ils s'entendent super bien. Ils se sentent tous angolais, ils veulent vraiment construire un pays. Quoi. J'ai ressenti ça. Vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés...
C'est un pays lusophone, ils parlent portugais là-bas.
Oui, ils parlent portugais par contre. Ouais. Heureusement, j'étais avec des gens qui parlaient anglais, ça m'a aidé.
Donc l'Angola, comme on dirait au Burkina, c'est doux. C'est comme ça qu'ils disent. C'est doux quand un pays est assez paisible, assez que les gens sont.
Mais ils ont eu 30 ans de guerre. Hein. Ouais. Je crois qu'ils en ont tellement bavé que ils veulent vraiment tourner la page.
Ouais, c'est sûr.
C'est ce que je ressentis après.
Voilà. Et donc après, vous avez filé vers le sud.
Voilà. Après, je suis parti sur la Namibie où là, c'est vraiment l'Afrique touristique dans le sens où il y a beaucoup d'animaux. C'est un peu comme le Sahara, le désert du Namib, sauf qu'il y a des animaux. Vous baladez, vous tombez face à des gnous, face à des antilopes et tout.
Ouais, donc.
Mais c'est plus réglementé, par contre. C'est moins libre. Oui. Il y a moins de liberté que.
Botswana, je sais aussi que c'est intéressant au niveau, mais c'est vrai qu'il y a une réglementation un peu quand même, hein, un peu.
Voilà. Alors, ce que j'ai aimé au Botswana, c'est qu'ils respectent beaucoup les animaux.
Oui. Oui.
Et du coup, même pour faire des voyages, des safaris, des trucs comme ça, je pense que c'est beaucoup, si on veut faire ça en autonome, hein, c'est beaucoup plus intéressant que la Tanzanie ou le Kenya, parce qu'on est beaucoup plus libre. Et comme ils adorent les animaux, ils respectent les animaux, il y a toujours des bons tuyaux pour faire des trucs sympas, quoi.
Voilà. Oui, en tout cas, c'est
moins organisé, on va dire, que...
La réputation que ça...
C'est moins organisé que la Tanzanie.
Tout à fait, c'est quand même plus...
À moto, j'ai pu... passé dans les parcs, hein. Je me suis retrouvé des girafes, des zèbres, des buffles et tout ça en moto, je m'y attendais pas du tout. Mais ça, c'est impossible en Tanzanie ou au Kenya.
Au Kenya,
ouais. Là-bas, faites attention, c'est tout ce qu'ils vous disent.
D'accord. Et donc après, quel est l'endroit le plus... Après, vous avez traversé plusieurs pays jusqu'au sud. Quel est l'endroit le plus au sud où vous êtes?
L'Afrique du Sud jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, qui est la pointe sud de l'Afrique, qui est quand même un lieu mythique pour les aventuriers de l'époque, qui étaient les grands navigateurs.
C'est ça.
Ouais. Alors, je voulais associer
mon
aventure au Cap de Bonne-Espérance.
C'est sûr. C'est sûr.
Et puis, c'est très beau. La région de Cape Town, c'est magnifique. Bon, ça ressemble peut-être un petit peu plus à l'Europe que l'Afrique de l'Ouest, mais... Mais c'est beau, quoi. Il y a du vin, il y a des vignes, il y a le manchot du câble, les petits manchots. L'océan est magnifique, hein. Bon, mais il est froid. Voilà.
D'accord, donc voilà. Et donc là, il a fallu revenir.
Voilà.
Vous êtes rentré comment?
Alors, ça, c'était juste avant la Covid. Donc j'ai laissé ma moto à des gens que je ne connaissais pas, qui étaient super gentils, qui tenaient un restaurant sur le front de mer à Cape Town. Et ils m'ont dit, on vous garde la moto. Mais le problème, c'est que la Covid, ça a duré 4 ans. Mmh. Ils m'ont gardé la moto 4 ans. Ils ont déménagé, ils ont pris la moto avec eux. Incroyable. D'ailleurs, je les ai invités en France. J'espère qu'ils viendront un jour. Et après la Covid, je suis retourné avec ma compagne. Alors, on est retourné faire un peu un tourisme un peu plus classique en Afrique du Sud avec la moto que j'ai récupérée là-bas, que j'ai redémarrée. Et après, j'ai laissé ma compagne qui rentrait en France parce qu'elle travaille, elle. Et je suis remonté, j'ai fait toute l'Afrique du Sud, pas jusqu'au nord, mais par le, en longeant le Zimbabwe. Mmh. Et après, je suis arrivé à nouveau au Botswana, au delta de l'Okavango, qui est magnifique. Ça, c'est un endroit. C'est peut-être au niveau animaux et au niveau endroit sauvage, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est le delta de l'Okavango. Mmh. Et puis, et j'ai vendu ma moto là-bas.
D'accord.
Les gens sont très gentils. Il y a très peu de blancs là-bas. Mmh. Et franchement, le tourisme est très sympa, je trouve, au Botswana.
Oui, ça fait partie des pays où c'est quand même, comme vous dites, c'est beaucoup moins...
Et puis c'est stable comme pays.
Oui. Ah, en plus, c'est un pays stable. Oui. C'est un pays très stable.
Il n'y a jamais eu de soucis politiques.
Ouais. Voilà, et puis retour en avion du coup.
Et voilà, j'ai laissé la moto au gars qui, je lui ai même renvoyé des pièces d'ici. On s'écrit régulièrement et la moto roule toujours. Hein,
d'accord.
Si je le crois.
Donc, Noël Gervais, merci d'être venu nous parler de votre périple, même si on n'a pas eu énormément de temps. Donc, moi, je conseille aux gens d'essayer de se procurer votre livre qui s'appelle L'Afrique comme j'aime. De Noël Gervais, donc. Et on peut se le procurer où, ce
Alors,
livre
le livre, je l'ai fait éditer sur Internet.
Oui.
Parce que, bon, donc, ça s'appelle, l'éditeur, c'est The Book Edition. Mmh. The Book Edition, après, il faut...
Ah oui, Book Edition, oui.
Voilà, il faut taper le mon nom com, ou le nom du livre. Mmh. Et L'Afrique comme j'aime. Mmh. Et sinon, il est aussi à la librairie Sorams à Montpellier, à la librairie du... librairie Comédie. Voilà, pour les gens pour les locaux, il est aussi.
D'accord, là. On peut l'acheter donc, chez Sorams aussi. Hein.
Voilà, et avec le livre, donc, on a presque fini de construire une école dans le nord-est de la Côte d'Ivoire pour scolariser les filles, parce que franchement, les filles, c'est l'avenir de l'Afrique.
Ça, je connais bien, le problème, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, l'argent que vous gagnez avec ce livre, vous le reversez donc à l'association MESAD, hein, M-E-S-A-D, qui est un mouvement d'éducation, santé et développement de Côte d'Ivoire.
Il faut énormément de choses. Et... Tous les domaines, ils sont très...
Donc,
très...
si vous voulez voyager à travers l'Afrique avec une moto qui a bien marché jusqu'au bout, faire 23 000 km, vous lisez le livre de Noël Gervais qui s'appelle « L'Afrique comme j'aime » et vous pouvez le trouver ou sur Internet, sur Book Edition, ou chez Sorams, à la librairie Sorams. Merci beaucoup, Noël Gervais, et puis sûrement qu'on se reverra parce qu'on reparlera un peu de tout ça, j'espère.
Ah ben, comme vous voulez.
Au revoir à tous, et merci encore Yann de sa patience. Au revoir.